Michel Severino, à travers tout votre parcours, il y a une constante, le développement. Comment se fait-il que cette ligne rouge du développement vous ait suivi jusqu'à aujourd'hui ?
Je suis né en Côte d'Ivoire dans une famille d'origine italienne. Et j'ai grandi dans ce pays. Au départ, mes sentiments ne me portaient pas particulièrement vers les questions économiques, les questions de développement. J'étais simplement heureux en Afrique. J'ai grandi, j'ai fait une partie de mes études. Je suis venu les poursuivre en France. Et j'ai toujours eu envie de travailler, de retourner dans cette terre que je trouvais magnifique, avec des Africains que j'adorais, un monde qui était le mien. Quand j'ai terminé mes études, à la fin des années 70, l'Afrique entamait une longue descente aux enfers, dans ce qui s'est appelé l'ajustement structurel. Les problèmes de pauvreté se posaient de plus en plus, on ne pouvait plus penser que simplement vivre en Afrique pouvait être quelque chose de banal. Il se passait des choses tellement difficiles, tellement dures sur le continent, que vouloir rester en relation avec ce continent impliquait de vouloir contribuer à apporter des solutions aux questions de pauvreté, aux questions de croissance. Et pour ma part, ayant acquis une formation d'économie, je me suis embarqué finalement à travers le service public français dans ce compagnonnage avec les pays qui s'étaient engagés dans l'ajustement structurel, essayer de le rendre plus rapide, plus efficace, moins douloureux possible. Donc mon fil rouge est plutôt l'Afrique que le développement, parce que c'est vraiment l'amour de ce continent qui m'a retenu, qui m'a capturé. Et c'est à cause de l'Afrique que je me suis engagé dans les sujets de développement et que je ne les ai plus lâchés, puisqu'après, j'ai eu l'occasion d'être recruté par la Banque mondiale, qui m'a fait travailler sur l'Asie et l'Europe centrale, après une expérience qui avait été très, très dense et un peu traumatisante sur le plan africain. Aujourd'hui, bien entendu, la situation africaine n'est plus du tout la même que celle des années 70. Et donc, ce long parcours m'a amené à faire aussi plusieurs révolutions intellectuelles et psychologiques sur moi-même au fur et à mesure des événements qui ont agité notre planète et en particulier l'Afrique.
Alors, quand on vous écoute, Jean-Michel Severino, l'Afrique, le fil rouge, comment vous l'avez d'abord concrétisé quand vous étiez plus jeune ?
J'ai concrétisé les défis qui m'ont attaché tout simplement en voyageant et en voyant les conditions de vie des gens. Quand vous naissez blanc dans une famille d'expatriés, vous bénéficiez de conditions de vie qui vous-même personnellement vous mettent à l'abri de l'horreur de la misère. Mais aussi protégé que soit votre environnement, vous ne pouvez pas échapper à la vision de ce qui vous entoure. Et c'est encore plus vrai à mesure que vous grandissez, que vous devenez étudiant, que vous voyagez, que de manière plus autonome vous découvrez la réalité du monde. Ce qui était saisissant, c'était pas tant la pauvreté que son accroissement. Dans les années 70, il était tellement évident que nous étions sur une pente d'accroissement de la difficulté de vie d'une très grande majorité des Africains et qu'il n'y avait aucun horizon de sortie à court terme, que c'était incroyablement interpellant. C'était difficile d'être dans cette relation affective avec le continent et pas se sentir obligé de participer à quelque chose. Alors, quand on fait ses études, on le finit, on ne sait pas toujours très bien quoi. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment analyser ce qui se passe. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Ouais. Hein, et que seule l'action, et puis la vie professionnelle, vous permet progressivement de comprendre et de capturer. Donc je ne savais pas très bien exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je me disais qu'il fallait absolument faire quelque chose.
Et alors là, vous avez un parcours tout à fait étonnant, puisque vous êtes devenu en 2001 le directeur général de l'Agence française de développement. Et aujourd'hui, vous êtes donc gérant de investisseurs et partenaires conseils. Vous pouvez nous faire le lien, nous dire exactement ces deux fonctions, comment sont-elles liées aussi avec l'Afrique ?
L'Agence française de développement est l'institution de financement du développement française. Et donc son travail est d'apporter du soutien financier et technique à des projets en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans l'ensemble du monde en développement, qui ont pour finalité de lutter contre la pauvreté et de résoudre les problèmes sociétaux. Et cette institution finance aussi bien des projets privés que publics, des gouvernements que des entreprises, que des ONG, que des fondations. Et au cours de la décennie où j'ai dirigé cette institution, qui est extrêmement active en Afrique. J'ai vu à la fois le monde changer, les enjeux du développement changer et les enjeux africains changer.
Est-ce que l'on peut lier ça à ce que vous avez étudié, à savoir le micro-développement ?
Absolument. Toutes ces réflexions sont la raison qui m'ont amené à développer l'activité dont je m'occupe actuellement et qui consiste à investir dans des petites et très petites entreprises africaines. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons mis sur Internet le financement d'une activité en Mauritanie. Nous avons sollicité 15 000 euros des internautes dans le cadre de ce qui s'appelle le crowdfunding. Vous savez, ces activités où chacun peut prêter 10 euros, 25 euros, 30 euros. Donc nous avons sollicité les internautes pour financer à hauteur de 15 000 euros une des sociétés dont nous sommes devenus actionnaires et que nous promouvons et qui consiste en Mauritanie à apporter de l'eau et de l'énergie aux populations rurales. Alors c'est une société qui est née il y a une dizaine d'années. Au début, c'était une ONG d'ailleurs. Elle s'est transformée en entreprise parce qu'elle a découvert qu'elle pouvait vendre ses services d'eau et d'électricité aux populations qui étaient désireuses de les acheter. De ce fait, elle pouvait financer son propre développement sans avoir à recourir à des dons. Et de ce fait, elle pouvait atteindre beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement que dans son schéma antérieur d'ONG. Cette société, en l'espace de 3 ans, depuis que nous y sommes, a créé 60 emplois. Elle a apporté à plus de 30 000 personnes de l'eau et de l'énergie, des populations extrêmement pauvres, donc de l'ordre de 3 000 familles nouvelles qui ont été desservies par cette entreprise. Et dans le cadre de cet appel aux internautes, nous avons commencé à essayer de financer la transformation de son approvisionnement en diesel, parce qu'elle fonctionne avec des groupes électrogènes diesel, en groupe alimentation solaire. Donc on voit que quand on est dans ce genre d'activité, on donne accès à de l'eau et de l'énergie à des gens qui n'en avaient pas. Non seulement on améliore leurs conditions de vie en termes de confort, mais on leur permet d'avoir accès à des services qui n'existaient pas jusqu'auparavant. Dans les villages où intervient désormais CDS, c'est le nom de cette entreprise, on trouve des infirmeries avec des frigos dans lesquels on peut conserver des médicaments. C'était impossible il y a simplement 2 ans ou 3 ans. Dorénavant, avec les systèmes d'adduction d'eau, dans ces villages, les gens peuvent déployer des périmètres irrigués et faire pousser des primeurs. Et en introduisant des technologies de ressources renouvelables, énergétiques renouvelables, on donne encore plus de pouvoir d'achat aux gens et on fait tout ça dans des conditions dont l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale, s'améliore de plus en plus. Et on est obligé de penser en même temps le service social, la dimension environnementale. Et si on y parvient, on finit par avoir un gain à 360 degrés et à transformer profondément et durablement les conditions de vie d'un nombre très significatif de personnes. En plus, les emplois que crée CDS sont les emplois qualifiés, sont les emplois d'ingénieurs, de techniciens. Alors bien entendu, ces emplois d'ingénieurs et de techniciens mauritaniens, il n'y a pas un seul blanc, il n'y a pas un seul européen dans cette entreprise. Ces emplois ne permettent pas de traiter le chômage au bas de la pyramide. Mais ce que fait CDS permet à des agriculteurs, permet à des petits entrepreneurs de développer des activités qui, elles, sont des activités non qualifiées. Et donc, nous pensons qu'actuellement, que pour un emploi que CDS génère, il y en a 50 qui sont générés dans le tissu social autour de l'entreprise par le fait de ces activités qui sont devenues enfin possibles du fait de l'accès à l'eau et à l'électricité.
Jean-Michel Severino, l'image qui m'est venue, c'est cette parabole des talents. Quand le Christ prend 3 hommes, il donne à chacun la même somme, plus ou moins la même somme, et il y a ceux qui rapportent le double, et puis celui qui l'enterre. Et il me semble, quand je vous écoute, que ce que vous dites, Jean-Michel Severino, c'est un appel à cultiver tous les talents que nous avons ici en Europe, mais pas seulement, aussi en Afrique, parce qu'il y a une multiplication qui peut se faire.
Votre référence à la parabole des talents est très émouvante et elle désigne, je crois, exactement l'esprit de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Sa version profane serait apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Et je dirais notre chance, c'est que les Africains ont beaucoup de talents. Il y a des ressources humaines admirables. Je viens de vous parler d'une entreprise mauritanienne. Le personnel et ses dirigeants sont des gens absolument extraordinaires. Ce sont des héros. Ils défient, ils surmontent des difficultés absolument incroyables dont nous n'avons aucune idée. Et ce qu'il y a d'exaltant dans ce travail, c'est que, avec toute son humilité, sa modestie, son caractère à terre, son dimension très pragmatique, il permet à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme de fructifier.
Merci Jean-Michel Severino.
Merci à vous.
Wake up, send up Africa.